Les correspondants de guerre essayent d'être le plus fidèles possible quand ils rapportent les mouvements des troupes et les scènes de bataille qui se déroulent devant leurs yeux. Le prophète Nahum, qui jusqu'à présent parlait calmement et avec dignité, change brusquement de ton et devient tout excité à cause des images fortes de la vision qu'il reçoit de l'Éternel et de l'émotion qu'elle produit sur lui. Il décrit avec vivacité le siège de Ninive et les horreurs qui l'accompagnent, la cruauté et les luttes sans merci. Son langage saccadé donne au lecteur le sentiment d'être en pleine bataille. Ces images guerrières n'ont pas d'équivalent dans la littérature hébraïque. Le prophète voit d'abord les armées affluer sur Ninive, puis l'assaut et enfin la prise de la ville et sa destruction. Je continue de lire dans le chapitre 2 du livre de Nahum. Celui qui va te disperser s'avance contre toi, Ninive. Garde ta forteresse, surveille tes chemins et rassemble ton énergie, affermis bien tes forces. Ninive est personnifiée car Dieu s'adresse à elle comme si c'était une personne. Elle avertit du siège qu'elle ne va pas tarder à subir. Le mot pour « s'avance » est un terme militaire qui signifie « monter contre » et « attaquer ». Nahum utilise le temps présent pour exprimer que cette attaque à venir est absolument certaine. Celui qui attaque Ninive est la confédération composée des Chaldéens, un peuple venu du golfe Persique et qui a conquis Babylone, des Mèdes venus de la mer Caspienne, et des Scythes, bandes errantes de cavaliers en quête de pillage. Les premiers sont dirigés par Nabopadassar, père de Nabucodonosor, et les seconds par Cyaxers, surnommé le Marteau, ce qui veut dire qu'il est préférable de ne pas se trouver trop proche de lui. Chacun de ces peuples a cruellement souffert sous la botte assyrienne et respire la vengeance, prêt à tout pour exterminer son adversaire. Au moment où Nahum prononce cette sentence, Ninive est toute puissante et florissante car la victoire récente des Assyriens sur les Égyptiens a encore renforcé le sentiment d'invulnérabilité des Assyriens. Mais c'est pure illusion. 4 commandements secs sont adressés à Ninive. Garde ta forteresse, surveille tes chemins, rassemble ton énergie et affermis tes forces. Ils reflètent le qui-vive et la tension qui règne dans le camp des Assyriens qui tentent de défendre leur capitale assiégée. Mais ces ordres secs sont des sarcasmes, car Nahum sait très bien que tout cet empressement est vain. Les dés sont déjà jetés et aucun degré d'excitation ne saurait épargner la ville du sort que l'Éternel lui a déjà assigné. Tous les efforts des Assyriens pour se défendre sont perdus. Je continue le texte. Car l'Éternel restaure la gloire de Jacob. Oui, il va rétablir la grandeur d'Israël. En effet, les pillards les avaient dépouillés et ils avaient brisé les sarments de leurs vignes. Alors que le lecteur a les yeux fixés sur les préparatifs de Ninive à se défendre, la tension tombe soudainement parce que Nahum interrompt sa description des efforts de guerre pour compléter les promesses de Dieu à son peuple Jacob et Israël, c'est-à-dire ici, le royaume de Juda. La destruction de Ninive est uniquement due à Dieu qui se venge des Assyriens parce qu'ils ont attaqué Israël qui est sa vigne. Après avoir envahi le royaume Israël Nord à plusieurs reprises, ils l'ont rayé de la carte. Par la même occasion, ils ont attaqué Juda, rasé ses villes et menacé Jérusalem. Mais toutes ces exactions sont désormais terminées. Maintenant que le peuple élu a reçu la pleine mesure du châtiment que l'Éternel voulait lui infliger. Le jugement de Ninive peut avoir lieu. La sentence de Nahum contre les Assyriens rappelle celle du prophète Abias contre les Édomites. Je lis ce passage. Le peuple de Jacob sera semblable au feu. Les enfants de Joseph seront comme une flamme. Les enfants d'Ésaü, par contre, seront comme du chaume qui sera embrasé et consumé. Il ne réchappera pas un seul survivant parmi les enfants d'Ésaü. L'Éternel le déclare. La fin de l'Empire assyrien va permettre au peuple de Dieu de sortir de sa condition humiliante et dégradante, et de renouer avec la position majestueuse que Dieu lui avait assignée. Cependant, cette gloire inhérente du peuple élu ne sera pas restaurée avant que le Messie n'établisse son royaume de 1000 ans sur la terre. Je continue le texte. Les boucliers de ces guerriers sont de couleur rouge, et ces vaillants soldats sont vêtus d'écarlate. Alors qu'ils se préparent, l'acier des chars jette leur feu et les cavaliers s'agitent. Nahum revient au siège de Ninive. Il est aux premières loges et, observant les armées qui s'avancent en direction de Ninive, il décrit ce qu'il voit. À cette époque, les boucliers sont en bois recouverts d'une peau d'animal qu'on peut alors teindre en rouge, soit en osier couvert d'une plaque de métal, généralement du cuivre poli, ce qui donne l'impression qu'ils sont rouges. Les soldats sont décrits vêtus d'écarlate. Le mot hébreu ainsi traduit ne se trouve nulle part ailleurs, mais comme il provient du mot qui désigne le vert qui est utilisé pour teindre les tissus en rouge vif, la traduction écarlate est probablement correcte. On sait aussi que le rouge est la couleur préférée des Mèdes, des Chaldéens et d'autres peuples parce qu'ils impressionnent l'ennemi. Le prophète Ézéchiel écrit « Les deux sœurs vit sur le mur des hommes désignés des représentations de Chaldéens dessinés peints en rouge. » Xénophon, historien et maître de guerre, écrit que les Perses de l'armée de Cyrus le Grand sont vêtus d'habits de couleur écarlate. De tout temps, l'art militaire consiste à combattre son ennemi sur le terrain, bien sûr, mais aussi de lui faire une guerre psychologique pour l'effrayer et l'intimider. Voilà pourquoi les terroristes de l'État islamique se sont fait coupeurs de tête. L'autre utilité de la couleur rouge est qu'elle masque le sang des blessures afin que l'ennemi ne sache pas si ses coups ont porté. Mais ici, Nahum mentionne l'éclat des boucliers et des vêtements des Mèdes et des Babyloniens parce que le rouge effraie les Assyriens, qui eux préfèrent le bleu ou le violet. Ézéchiel écrit « Les Assyriens, ses voisins, vêtus d'étoffes teintes en bleu, gouverneurs et chefs, tous jeunes et charmants, cavaliers montés sur des chevaux. » Nahum dit aussi voir que l'acier des chars jette leur feu. Ce sont les Perses, sous Cyrus, qui furent les premiers à fabriquer des chars de guerre équipés de roues armées de lames acérées. Ce que Nahum voit n'est donc pas des feux, mais des décorations métalliques qui ornent le centre des roues. En réalité, il y en a un peu partout, et sous les rayons du soleil, ces parures, ainsi que les armes et les boucliers, jette des feux dans toutes les directions, ce qui a aussi pour objectif d'intimider l'ennemi. Ensuite, Nahum décrit les cavaliers qui s'agitent. Il les voit donner une tape à leurs chevaux, soit de la main, soit d'une cravache, afin qu'ils se lancent à l'attaque. Je continue le texte. Les chars se précipitent en furie sur les routes. Ils se ruent sur les places. On dirait des torches de feu. Ils courent en tous sens comme l'éclair. Nahum voit les chars de guerre foncer à toute allure dans les rues et avenues de la capitale. Il les regarde traverser les places et les squares. et les rayons du soleil qui se reflètent sur le métal des chars et des armes leur donnent l'aspect de torches en feu et en mouvement. Je continue. Alors, le roi d'Assyrie bat le rappel de tous ses capitaines. Dans leur marche, ils trébuchent. Au rempart, ils se précipitent et un bouclier défensif est mis en place. Le prophète se tourne maintenant vers Ninive et l'organisation de sa défense. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce n'est pas la première fois que les Babyloniens et les Mèdes font le siège de Ninive, et les trois fois où ils ont lancé un assaut contre ces murailles, ils ont été repoussés, parce que les Assyriens ont bien défendu leur ville. Le roi leur a distribué de quoi faire la fête, et ils sont ivres. Puis un événement tout à fait inattendu a lieu, une action divine dont l'ennemi va tirer profit. Selon plusieurs historiens antiques, des pluies diluviennes ont gonflé les eaux du fleuve Tigre qui a finalement emporté les fortifications sur une longueur de presque 3 kilomètres. Le roi, qui ne s'attendait évidemment pas ni à une telle tragédie, ni à une attaque surprise en pleine nuit, sonne le branle-bas de combat. Il fait appel à tous ses capitaines qui ont si souvent conduit son armée à la victoire et leur ordonne de défendre la ville. Mais ces derniers trébuchent parce qu'ils ne sont plus en possession de tous leurs moyens, du fait, semble-t-il, des excès de boissons, mais aussi parce qu'ils ont compris que l'heure est très grave et sont terrorisés. Finalement, les soldats assyriens arrivent à se ranger côte à côte et avec leurs boucliers à la main, ils forment un mur de défense. Je continue. Les portes donnant sur le fleuve sont renversées et le palais se dissout. Nahum dit ce qui s'est passé, mais sans donner le moindre détail. Ninive est traversée par un affluent du fleuve Tigre qui s'appelle Kosser et qui remplit les fossés, les douves qui entourent le palais. À l'angle nord-ouest des murailles qui protègent la ville se trouve un système d'écluses et de vannes qui a deux fonctions. Il empêche d'une part le Kosser de se déverser trop rapidement dans le Tigre et d'autre part il empêche l'eau du Tigre de se répandre dans la ville en cas de crue. Mais un tel système ne peut pas contenir des eaux diluviennes. Celles-ci ont alors formé un puissant torrent qui s'est jeté contre la muraille côté nord et l'a écroulé. Une fois qu'une telle brèche est ouverte, les assiégeants attaquent les Assyriens, surpris, découragés et pas vraiment en état de combattre, et la ville est rapidement conquise. Nahum dit aussi « Le palais se dissout ». A priori, on pourrait penser que cette description correspond à l'écroulement de l'édifice. Mais cette possibilité n'est pas envisageable, parce qu'on sait que tous les palais de Ninive sont construits sur un soubassement qui fait au moins 10 mètres de haut, composé de briques, de terre séchée au soleil et solidement unies entre elles, ce qui permet à cette fondation de résister à toute inondation. D'autre part, on a retrouvé d'amples évidences qui prouvent que tous les palais et temples de la ville ont été détruits non par l'eau, mais par le feu. Je continue le texte. Celle qui était ferme et audacieuse est mise à nu. Elle va être emmenée. Ses servantes geignent avec des voix de colombe en se frappant la poitrine. Le mot hébreu traduit par « celle » est inconnu, mais il le représente Ninive ou la déesse Itsar, principale divinité des Assyriens. Ninive, qui fut pendant des siècles la reine des villes du Moyen-Orient, est conquise. Sa puissance a disparu, et pour elle a sonné l'heure du jugement et de la captivité de ses habitants, qui sont dans le deuil le plus profond devant cette catastrophe. Nahum mentionne des voix de colombe, parce que cet oiseau symbolise la plainte, à cause de son cri qui ressemble à une lamentation. Et lorsque, saisie de frayeur, la colombe s'envole subitement, le bruit de ses ailes émet un son similaire à celui de quelqu'un qui se frappe la poitrine de douleur. En outre, la colombe est l'oiseau consacré à la déesse Itzar, très prisé par les Assyriens. Je continue. Ninive est comme un bassin fissuré qui ne retient plus l'eau dont il était rempli. Les voilà qui s'enfuient. Arrêtez, arrêtez ! Mais nul ne se retourne. Ninive était une grande capitale prospère qui attirait beaucoup de monde. Elle était remplie d'habitants ainsi que de beaucoup d'esclaves et de marchands venus pour y faire du commerce. Mais maintenant, c'est la débandade et chacun pour soi, y compris les soldats. Les capitaines ont beau crier « Arrêtez, arrêtez !» Nul ne prête plus attention à eux et la ville se vide de tous ceux qui l'habitent. Soit ils sont massacrés, soit ils s'enfuient, soit ils sont emmenés en captivité. Je continue. Pillez tout son argent et raflez tout son or. Ses richesses sont sans limite. Elle est remplie d'objets précieux de toutes sortes. Au fil des siècles de ses conquêtes, Ninive est considérablement enrichie grâce aux butins de guerre, mais aussi parce que toutes les nations vaincues, étant devenues vassales de la Syrie, elles doivent payer un tribut en or, en argent, à leur suzerain. Toutes les richesses du royaume israélite des 10 tribus du Nord se trouvent à Ninive, et Juda doit verser une énorme somme d'argent tous les ans si le royaume ne veut pas de nouveau voir camper des armées assyriennes devant les portes de Jérusalem. En faisant l'inventaire de ce qu'ils avaient pris aux autres nations, le roi assyrien, Assurbanipal, mentionne 27 fois l'or et l'argent. Les fouilles archéologiques effectuées dans les ruines de Ninive ont mis à jour beaucoup d'objets précieux en marbre, ivoire ou en albâtre, laissés derrière eux par les envahisseurs qui se sont contentés d'emmener l'or, l'argent et le bronze, tellement il y en avait. Par contre, les villes qui étaient dans la grande banlieue de Ninive furent entièrement pillées, parce que pendant les 3 ans de siège de la capitale, les Mèdes et les Babyloniens et les Scythes ont eu amplement le temps de passer au peigne fin ce que ces villes contenaient comme richesses. Une grande partie de tout ce trésor de guerre aboutit à Babylone. Et quand le Perse Xerxès s'empare de cette ville, il récupère du palais de l'idole Bel, protecteur de Babylone, 7350 talents d'or. Il faut multiplier ce chiffre par un peu plus de 30 kg pour avoir le tonnage, ce qui fait donc au moins 23 tonnes d'or, de quoi passer une retraite plutôt bien dorée. Tout ça pour dire que Ninive d'abord, puis Babylone ensuite, furent en leur temps des villes d'une richesse inouïe, qu'il ne nous est pas possible d'imaginer. Et bien entendu, plus les rois ont de l'or, de l'argent et des objets précieux, plus ils en veulent davantage, tout comme les ultra-riches aujourd'hui, à qui il faut encore un autre million d'euros et puis un autre, un processus qui se répète encore et encore. La première fois qu'on lit les paroles de l'apôtre Paul qui dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux », et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. On peut facilement penser qu'il exagère un peu. Pourtant, quand on considère tous les vices et comportements scandaleux des hommes, les vols, braquages, escroqueries à l'assurance, trafic de drogue ou de personnes, ouvriers sous-payés, et que sais-je encore, on est obligé de reconnaître que la convoitise de l'argent est presque toujours présente, que ce soit d'une manière flagrante ou subtile. Je continue le texte. Sac, saccage, écarnage, hélas ! Les cœurs défaillent, les genoux flageolent. Les voilà angoissés, tremblants, de tout leur corps. Les visages de tous sont blancs comme des linges. Les trois mots hébreux traduits par sac, saccage et carnage sont très proches dans leur sens et par leur son. Ce triple martèlement produit une langueur monotone qui sert à exprimer la ruine totale de la ville. Parce que leur vie était complètement chamboulée et qu'elle ne tient même plus qu'à un fil, et parce qu'on leur ravit toutes leurs richesses, les habitants de Ninive sont terrorisés, ce qui les rend blêmes et livides. Ils n'ignorent pas qu'on les hait à cause de tout le mal qu'ils ont fait. Alors maintenant, ils craignent, à juste titre, la vengeance de leur ennemi. Je continue le texte. Qu'est devenu cet antre du lion, ce domaine où les lionceaux se repaissaient des proies que le lion était allé chercher, sans qu'il soit dérangé? Le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes, il remplissait de proies ses antres, de dépouilles ses repères. Le lion, qui est un prédateur redoutable, est le symbole idéal pour l'Assyrie, et de plus, c'est l'emblème de Ninive. Les rois assyriens se vantaient de leur prouesse quand ils chassaient les lions, et ils se comparaient volontiers à eux pour ce qui est du courage et de la férocité. Le roi Sennachérib avait coutume de se glorifier de la furie et de la cruauté de ses campagnes militaires en disant « Je rage comme un lion ». C'est à Ninive, l'antre du lion, que le roi assyrien revenait avec ses proies pour les partager avec ses lionnes et lionceaux qui les déchiraient. Cette caverne regorgeait de butin et tous s'étaient rassasiés, repus de nourriture, et l'effroi que cette troupe de lions imposait était tel que personne n'osait troubler leur festin. Les rois assyriens entretenaient leur cour, harem et leur grand en pillant les autres nations. C'était la coutume, aussi bien pour les rois assyriens que de Perses, de donner des villes et même des provinces à leurs femmes et concubines favorites. Les habitants de ces territoires doivent alors fournir à la grande dame en question tout ce qu'elle leur demande. Une coutume similaire existait en Orient, comme le montre le vieux film Shogun, qui décrit le Japon féodal sous l'influence portugaise. Un seigneur peut donner tout un village de pêcheurs à l'un de ses samouraïs, ce qui inclut le droit de vie ou de mort sur chacun de ses habitants. L'historien et maître de guerre grec Xénophome, que j'ai déjà mentionné, raconte que certains villages avaient été donnés à la reine Parysatis, fille du roi perse Artaxerxès, qui épousa son frère qui devint Darius II. Mais que risque-t-il aujourd'hui de ces empires jadis si puissants? On aurait pu croire, en contemplant les ruines de Ninive, que ce fut la capitale d'un peuple qui tyrannisait tant de nations. La grandeur de l'homme est décidément très précaire. Dans sa première épître, l'apôtre Pierre écrit « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. »